I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quand je serai grande, je serai astronaute. Moi, quand je serai grande, je serai astronaute.
Moi, quand je serai grande, je serai actrice.
Bienvenue aux enfants du bruit et de l'odeur, qui fait référence au discours de Jacques Chirac prononcé en juin 1991 et qui a marqué toute une génération. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter des problématiques que nous avons rencontrées et que peuvent rencontrer les parents d'enfants racisés au sein de l'école.
L'école reflète la société. Les enjeux que nous rencontrons sur les questions raciales se jouent également au quotidien au sein du milieu scolaire de nos enfants. Le racisme, les stéréotypes, les discriminations sont des sujets auxquels ils peuvent être confrontés dès leur plus jeune âge. L'isolement, les doutes que nous avons en tant que parents nous empêchent de trouver les mots, les gestes, l'attitude à adopter face au corps enseignant afin de protéger nos enfants.
Ce podcast est avant tout une façon de réhabiliter notre parole en tant que parents afin de rendre audibles les voix, les vécus, les réalités qu'enfants et parents racisés vivent tout au long du parcours scolaire.
Parce que le racisme n'est pas qu'une affaire d'adultes, nous avons voulu prendre le problème dès la racine. Car c'est par une meilleure reconnaissance de leurs identités que nos enfants pourront devenir des citoyens reconnus et libres, fiers de leurs ambitions professionnelles demain.
Quand je serai grande, je serai astronaute.
Salut Dany, comment tu vas aujourd'hui ?
Salut, ça va et toi ?
Bah écoute, je vais bien. Alors je te présente, tu es artiste musicien.
C'est ça. Je m'appelle Dany Boumba, chanteur, auteur, compositeur, producteur et poète à mes heures perdues. J'écris beaucoup et essentiellement sur les questions qui touchent la société. Je suis un artiste engagé.
Oui.
Et donc l'idée vraiment de réussir à faire quelque chose de rythmé, mais qui derrière a un message important, un peu dans la démarche d'un Stromae, ce qu'il a fait avec Racine Carrée, parce que j'aime la musique qui groove, j'aime la musique qui bounce.
Mais c'est peut-être aussi parce que tu as été inspiré par des personnes qui étaient dans ce domaine, qui avaient ce style. Hein.
C'est ça, ouais, j'ai été aussi inspiré. Et puis c'est propre à la musique de mon enfance, le rythme.
Qu'est-ce que tu écoutais ?
Exclusivement de la musique noire.
Par tes parents ?
Par mes parents, ouais. Que ce soit au départ donc de la musique congolaise.
Parce que tes parents sont d'origine congolaise ?
C'est ça.
D'accord.
Beaucoup de pop congolaise, à savoir Koffi Olomide.
C'est ce que j'allais dire.
Koffi, Olerason, Fally Ipupa, ou plus ancienne.
Et du coup, t'as quoi de plus ancien ?
Zaiko, Langa Langa, Ok Jazz, t'as Pepe Kale, t'as Franco, t'as Boulero Chero, qui est le papa de Youssoupha d'ailleurs, rappeur.
D'accord, oui, je connais.
Un grand musicien congolais. Enfin, il y en a plein d'autres comme ça qui sont d'époque avant, celle de Koffi Olomide, par exemple, avec laquelle moi j'ai plus grandi. Ouais. Quand j'écoutais un Taboulé ou un Franco, c'était parce que mon père le décidait.
Mm-hmm.
Ça allait pas être moi qui allais mettre le disque, quoi. Par contre, un Koffi, j'allais le mettre dans mon iPod.
Ton iPod, t'es sûr ?
Bah, à l'époque. Oui, bon, à l'époque, peut-être pas.
Non, tu vas pas me la faire. Hein. Non. Allez, Walkman, je veux bien, au pire, mais mon iPod.
Je voulais semer le doute sur mon âge, mais.
D'accord, non, ça marche pas. Non, mais à peu près de la même génération.
Mais attends, mais quand j'étais jeune, il y avait des iPods.
Quoi ? Mais
moi, j'ai eu
quoi,
un iPod
truc,
jeune.
C'est vrai ?
Mais oui.
Enfin, ça dépend après qu'est-ce que tu appelles jeune aussi. Hein,
oui, quand je dis jeune, oui, j'avais je devais avoir, oui, peut-être aller, je sais pas.
Ah, vas-y, arrête. Non, je vois bien que tu rêves. Cherche pas, on n'avait pas d'iPod.
C'est non, pas d'iPod.
Pas du tout. Et du coup, tu avais quoi comme relation avec tes parents à travers la musique, mais peut-être aussi dans le parler
Ouais, mon père est un gros kiffeur de son. Donc, black music everywhere, reggae, musique congolaise.
Donc c'était pour toi, c'était plutôt une bonne ambiance, tu souhaitais voyer la maison
ouais.
Comme un lieu
musicale.
Bah oui, carrément, ouais. Carrément, c'était plutôt une bonne ambiance. C'était plutôt une bonne ambiance. Après, avec du recul, j'entends aussi toute cette musique qui est quasi omniprésente et qui, quelque part, nous empêche de parler, de rester dans le silence et se parler quand il y a besoin. C'est vraiment la musique qui est
le centre, un petit peu
le centre de toutes les expressions d'émotions.
Que ce soit de la fatigue, des moments de tristesse, c'est toujours par la musique.
Ouais. Et puis ma mère qui chante aussi beaucoup. Avec du recul, je me rends compte que elle allait pas nous dire, les gars, je suis fatigué, parce qu'on est que des garçons.
Vous êtes combien dans la fratrie ?
On est trois.
D'accord. T'es le plus grand ?
Je suis le plus grand.
D'accord. T'es l'aîné. C'est la pression, ça, l'aîné. Ouais,
grosse pression. grosse pression.
Non, mais trop.
Ouais, laisse tomber. Franchement, j'aurais bien aimé être le cadet.
Le petit dernier, ouais, le cadet, c'est bien.
Peut-être pas le dernier, mais peut-être pas. Mais le deuxième, moi, c'est bien.
Ouais. Puis... Pourquoi ? T'es un peu plus libre,
tu peux jouer sur les deux, tu vois, tu peux un coup faire la carte du genre je suis le petit, prenez soin de moi, et puis quand tu veux faire le malin, tu dis au petit reste tranquille.
C'est ça.
Reste tranquille, je suis ton grand frère.
Ouais, c'est sûr. Et du coup, ta maman, quand elle était fatiguée, elle
ma mère, c'est quelqu'un qui a beaucoup ravalé ses émotions, tu vois. Je sais pas si c'est parce que c'est son trait de caractère à proprement parler, ou alors si c'est parce que c'est un schéma culturel. Les deux jouxtent un peu l'un sur l'autre, tu vois. C'est un coup, c'est son caractère quelque part. Et
de l'autre côté, t'as une injonction aussi où clairement. Les femmes noires doivent être fortes et encaisser, on va dire, c'est
exactement.
Ça
exactement. À sa façon de chanter, à sa façon d'écouter une musique ou une autre.
Tu savais.
On savait. Et donc, à cet endroit-là, la musique a une grosse, grosse place dans ma vie.
Et toi, tu penses que tes parents le savaient aussi à ta façon d'écouter, de chanter ? Parce que si toi, tu pouvais ressentir en fait ce qu'eux sentaient, ce qu'ils éprouvaient à certains moments, est-ce que tu penses qu'eux, ils avaient cette porte ouverte à tes sentiments, à ce que tu étais ?
À ce moment-là, je pense pas. C'est l'enfant, c'est tiens-toi là et sois calme. Tu vois, on va pas essayer de comprendre ce qui se passe dans sa tête.
Et c'est dû à quoi ? Est-ce que c'est culturel, tu penses, ou est-ce
que... Je pense qu'il y a une affaire de culture, ouais.
Est-ce que c'était pas une nécessité aussi ? Parce que je sais pas pour toi, moi, ma mère, elle est arrivée en France adulte. Mm-hmm. Il a fallu qu'elle se débrouille. Donc, j'ai l'impression que mes tantes à Madagascar ne se comportaient pas de la même façon avec les enfants, on va dire.
Ah bah oui, non, mais oui, je pense. Donc forcément, ils sont dans une démarche, je pense, de protection. Mm-hmm. En nous disant, tiens-toi comme ça.
Oui.
Parle pas, fais pas de bruit. Il y a quelque part cette volonté de, je sais pas si c'est s'intégrer, mais c'est plutôt de se faire de pas se faire voir, quoi.
Oui.
Surtout.
Est-ce qu'on peut dire assimiler du coup ou pas ? Ou tu penses que le mot n'est pas du tout approprié ?
Je pense que le mot n'est pas approprié, ouais. Moi, c'est vraiment ne pas se faire voir.
Ouais, pas se faire remarquer.
Parce que s'intégrer, c'est quelque part tu veux faire entendre ta voix et la confondre avec celle de tous les autres, tu vois. Non, là c'est vraiment de pas se faire voir.
D'accord.
Quitte à ne pas parler. Et c'est exactement ce qui se passe du coup même dans le rapport entre parents-enfants, c'est qu'on se parle pas. Donc il y a ce truc où les parents ne parlent pas. Déjà, connaître les émotions de tes parents, c'est quelque chose. Il y en a deux. C'est soit ils vont...
être en colère, soit ils sont contents.
Ouais, voilà. Soit ils sont contents. Soit ils sont en colère. Voilà. Et c'est vraiment ça, il y a très peu de nuances, tu vois. J'extrapole, t'as compris, mais...
Non, mais je comprends, je vois tout à fait ce que tu veux dire.
Tu nous entends tous raconter des anecdotes avec nos parents, un peu virulentes comme ça, sous l'effet de la blague.
Oh, ouais.
Mais quelque part, ce sont des traumas, en
bien
réalité,
sûr.
Tu vois. Il y a cette réalité-là, des émotions non dites, de tous ces non-dits qui planent de plus en plus, et un non-dit sur un non-dit, ça fait du non-dit.
Un énorme non-dit
de génération en génération.
D'incompréhension aussi.
D'incompréhension, bah forcément, la compréhension se complique s'il y a des non-dits, quoi.
Et du coup, tes parents, ils parlaient quelle langue ?
Lingala.
Lingala, et toi, tu parles Lingala ?
Oui.
D'accord. Et donc, tu parlais Lingala avec eux ?
Bah, eux, ils nous parlaient Lingala,
ouais.
Mais nous, on répondait en français. Je le parle bien, je le comprends.
Et tu le transmets aujourd'hui ?
Pour mes enfants, c'est plus compliqué de leur... Quoique non, enfin, en réalité, c'est pas compliqué, mais disons que je leur parle en Lingala, et il faut que je retraduise derrière.
Ouais.
Oui, tu vois, ils sont pas dans une discussion vive et vivante du Lingala, tu vois. Et mon grand, ouais, il s'y intéresse beaucoup.
Avec tes parents ?
Avec mes parents, ma mère leur parle essentiellement Lingala.
Ouais, chapeau ta mère, elle a raison, il faut veiller.
Ouais,
elle a tout à fait raison.
Carrément.
Ouais, tu me parles un petit peu de comment ça se passait, toi, ton enfance, à l'école, et comment tes parents étaient impliqués.
J'étais plutôt normal, toutes les matières. La matière dans laquelle j'étais le meilleur, c'était le français. J'aimais bien lire et écrire. J'écrivais beaucoup dans les cahiers de texte de mes copains.
Dans les cahiers de texte de tes copains?
Ouais.
Et pourquoi tu écrivais dans le leur et pas dans le tien?
Bah, j'écrivais des poèmes qu'ils allaient lire plus tard, quoi.
D'accord.
C'est un truc que je fais encore aujourd'hui, l'idée d'écrire un poème à quelqu'un et qu'il lira plus tard, tu sais.
Et du coup, tes parents, ils étaient investis comment?
Mes parents, comment ils étaient investis dans mon rapport à l'école? C'était plus un ordre, plus quelque chose qui devait être fait pour les rassurer de bon, tu dois cravacher.
Donc tes parents te disaient toujours de travailler plus que les autres?
Ah ouais, ouais, clairement. Bah, ils me le disaient pas explicitement comme ça, mais dans ce qu'ils m'imposaient d'être et de faire. C'était pour tout justement être eux, être ouais, voilà, eux être sûrs que je travaille plus qu'un autre. Ils agissaient comme ça avec moi pour ne pas avoir à me dire que mec, travaille plus parce que t'es pas vu comme les autres. Ça, ils ont pas eu cette discussion avec moi. Ils m'ont pas dit clairement, tu sais, on est dans un monde blanc.
Ils te l'ont jamais dit, mais toi, tu l'as ressenti.
Ah ouais, très vite. L'éducation, elle se fait avec les parents, mais elle se fait aussi dans la rue, avec les copains. Et ça, c'est des discussions qu'on a très tôt.
Et pourquoi vous avez ces discussions-là très tôt?
T'es confronté à des adultes qui sont dans la rue. Hey, petit con, hey, petit négro.
Ouais.
C'est arrivé.
Ouais.
Hey, ouais, les petits singes, là, allez faire vos. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité quand un prof dit à des enfants noirs arrêtez de faire les singes, il sait très bien ce qu'il dit.
C'est vrai qu'il y a des mots comme ça qui sont
placés. Il sait très bien ce qu'il dit, tu vois. On va pas nous faire le coup de oui, bon, on peut plus rien dire. Oh, mais non, mais machin.
C'était un mot comme ça. C'est parce un mot comme France, ça.
Non, tes
ça.
Enfants, tu. C'est une réalité qui, au départ, ne prend pas l'impact que ça a réellement quand t'es enfant. Pourquoi? Parce que tu peux pas en parler forcément tout de suite avec tes parents. Donc tu réfrènes l'émotion que cette réflexion te fait. Tu rejettes un peu, tu vois.
Et tu en parles pas à tes parents, mais tu en parles pas à tes copains non plus.
Tu vous en parlais pas, non?
Non, ouais.
On s'en parle pas. On s'en parle pas. Il y a aussi ce phénomène du garçon en banlieue, tu vois. Où il faut pas parler des émotions parce qu'il faut pas être un gars fragile.
Tu m'avais parlé aussi de ce qui t'était arrivé à l'âge de 12 ans, 12-13 ans.
Avec la police, ouais. Bon, j'avais 13 ans, contrôle de police, j'étais avec un copain. Donc on est tous les deux noirs. Dans leur véhicule, ils s'arrêtent à notre niveau. Ils descendent, ils viennent contrôler. Qu'est-ce que vous faites là? Près d'un parc dans lequel on joue au foot. Le souvenir le plus clair que j'ai, c'est qu'on était posé. Tu sais, on a 13 ans.
Mais voilà, entre potes, vous êtes en train de parler. Vous
voilà,
étiez assis,
tu vois, on parlait. Enfin, on devait parler de Pokémon ou de Dragon Ball Z, quoi. Tu vois, les policiers s'arrêtent devant nous, descendent, plein de zèle déjà. Et tout de suite, enfin, moi, je me souviens que je suis un peu effrayé tout de suite, vraiment, tu vois. Je sens qu'ils viennent avec une énergie pas du tout.
Positive.
Et donc, du coup, et clairement, ils arrivent et nous gueulent dessus. Qu'est-ce que vous faites là? Dégagez de là. Ils nous contrôlent, du coup. Moi, j'avais pas de pièce d'identité.
Mais en même temps, personne sort à 12 ans avec sa
pièce
d'identité, quoi.
On n'avait pas de pièce d'identité à ce moment-là. Moi, j'en avais juste pas du tout, en fait, de pièce d'identité. Je m'attrape par le col qui me dit c'est chez nous ici, vous n'êtes pas dans votre quartier, dégagez d'ici, qu'on ne vous revoit pas.
Et des adultes qui te sortent ça à un enfant de 12-13 ans, quoi.
Et donc, ils font mine déjà de partir. Ils font mine de partir et nous, on ne comprend pas, donc on reste, en fait. On reste sur place. Et il y en a un qui revient sur moi et qui m'attrape par le vêtement. Et avec son autre main, il me tire les cheveux.
Waouh.
Il me dit, tu veux pas que je te coupe tes couettes, toi? Ouais. Je me rappelle qu'il disait ses couettes. Ça m'avait vexé,
parce que
en fait.
Toi, t'avais des locks à l'époque.
J'avais des locks, en fait.
Oh, ouais.
Et ça me vexait qu'il me dise des couettes. Parce que, tu sais, tu te retrouves souvent face à des gens qui te disent, mais pourquoi tu fais des coupes de filles, tu vois? Donc, tu vois, t'es un peu con-con. Et il me dit d'autres choses que, tu vois, c'est marrant, même aujourd'hui, j'aime pas le redire, en fait, ce qu'il me disait, tu vois. Un moment qui nous dit, vous êtes des petites putes, vous êtes des petites putes, petites salopes, je sais plus ce qu'il avait dit exactement. Mais c'était un des deux, quoi.
Qui te dit ça,
quoi. Bon, ok, tu comprends pas. Et vraiment, à 13 ans, je me souviens ne pas comprendre, en fait. Réellement, tu vois, c'est ça m'a perturbé parce que je comprenais pas, en fait. Je comprenais pas,
La police, en fait, en plus.
C'était la police, en plus, et surtout qu'il utilisait un langage auquel j'avais jamais été confronté. Même avec une embrouille avec un autre garçon, par exemple. Tu vois, ça avait jamais été aussi violent dans le propos, tu vois. Puis en plus, qui nous est
attrapé
par le col et tout ça. Je me disais, non, c'est sûr, il va nous monter en l'air. À un moment donné, il va nous...
Oui, puis c'est la police.
C'est
quand
un homme,
ans,
c'est la police, en fait.
Voilà. Ça ne correspond pas à l'image que tu as de la personne avec l'uniforme.
Moi, je me souviens, à ce moment-là, penser à mon père, en fait. Me dire, mais si là, le keuf, il se met à nous violenter... et que ça en vient à aller, imaginons, au commissariat. Mm-hmm. Oh my God.
Là, ton père, il va te laisser
tomber. Ah non, mais là, dans ma tête, il se passait, tu sais, là, l'image des quatre Ghanéens, là, avec le cercueil surtout. Je me voyais comme ça, là, vraiment. Et moi, je suis dans le cercueil.
Mais arrête.
Et j'étais là, merde. Je crois que c'était un cocktail de peur entre ce que le policier me faisait de peur et mon père, ce qu'il aurait pu dire et faire, tu vois.
Bah, c'est aussi nos problématiques, hein. Dans nos récits de vie, c'est que d'un autre côté, on se sent pas toujours protégé par le monde extérieur et que aussi on peut avoir peur de ce qui se passe à la maison, quoi.
C'est ça. Dit comme ça, ça peut paraître comme ça peut paraître comme j'ai pas du tout vécu dans un climat violent chez moi, tu vois. C'est-à-dire que j'ai eu des parents très aimants, vraiment, qui faisaient de leur mieux, mais qui faisaient de leur mieux en essayant de s'intégrer dans un climat. Qui n'était pas le leur, qui comprenait pas encore complètement.
Oui, pas les codes.
Donc du coup, qui pouvaient pas réellement expliquer à leurs enfants. Donc pour ne pas avoir expliqué, ben vaut mieux pas parler de ça en fait. Et c'est ça en fait qui a fait que ça engendre des peurs et qui, quand ces peurs sont stimulées par les enfants. Bah plutôt que d'essayer d'en parler, ben le père réagit par un excès.
Parce que eux-mêmes ils avaient
peur, quoi. Tu vois,
quand
t'as peur,
hein.
Exactement, quand t'as peur, du coup tu surréagis, tu vois. Et c'est des surréactions souvent, tu vois, quand le père il vient, il te fout une baffe parce que
parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent aussi derrière tout ça pour eux.
Oui,
parce que
exactement.
C'est pas une humiliation, mais un peu quand même en fait, parce que
presque.
Voilà, comme je te disais tout à l'heure, il y a des stéréotypes qui vont et ils les connaissent, ces stéréotypes.
C'est exactement
et ils te connaissent.
Ça. Pour revenir à l'événement policier, j'ai pas pu en parler à mon père, donc pour toutes ces raisons-là, on se dit pas les choses. J'ai jamais raconté cet événement.
Est-ce que tu m'as dit que tu l'avais pas raconté ni à ta mère, ni à ton
ni
père
Ni à ma mère, ni à mon père, que j'ai gardé ça toute mon enfance, toute ma jeunesse.
Même avec ton copain, sur votre chemin du retour, vous n'avez même pas pu en parler, en fait. Vous avez baissé la tête et vous avez marché silencieusement tous les deux.
Ouais, exact. On n'a pas parlé. Je me souviens qu'on était... choqués. Mais on s'en est pas reparlé. Par contre, on a fait un groupe de rap après, des 13 ans. Te parler de la police, parler des injustices... On exprime...
À travers la musique.
À travers la musique, ouais.
Et tu en as parlé à ton fils de ça ?
Ouais.
Et qu'est-ce qu'il en a dit ?
J'en ai parlé. Il est conscient de tout ça. Donc il a conscience que c'est des choses qui arrivent, qui existent et qui arriveront encore certainement. Mais voilà,
Et à partir de quel âge tu as commencé à lui parler, par exemple, du racisme ou des réactions avec les policiers ou avec les autres adultes ?
Je pense que j'ai commencé vraiment à lui en parler à ses 10 ans. Mais je pense qu'il est sensible à ça depuis presque toujours petit. Avec moi, depuis petit, parce qu'il me voit. Il voit dans ma musique, il entend ce que je dis, il voit ce que je fais. Il voit il voit ça, mon désamour, il voit le rapport que j'ai avec la police.
Et là, il a compris aussi à partir du moment où tu en as parlé, peut-être.
Et là, il a compris à partir du moment où j'en ai parlé, il comprend d'autant plus avec Adama Traoré, parce qu'il voit tout ça, tu vois. Il a un portable, donc il va sur Internet et machin.
Et qu'est-ce qu'il en pense justement de ce qui s'est passé avec Adama Traoré en
France ? Ça le révolte.
Il a peur, lui, pour sa propre personne ?
Je sais pas s'il a peur vraiment. Ça, il me l'a jamais dit comme ça qu'il avait peur. Mais il sait que ça existe, donc il est quand même en alerte. Je sais qu'il est en alerte quand je vais l'envoyer chercher une brique de jus chez Franprix. Il sait que je vais lui dire fais attention, quoi.
Et toi, ça te trotte dans la tête parfois, justement, en ayant un fils, en te disant, bah, il pourrait.
Bien sûr, quand il va chercher la baguette, je le regarde par la fenêtre. Ouais. Tu vois? Mmh. Et ça, il a conscience. Et il sait bien que quand je lui dis fais attention, ça veut pas dire fais attention, ne trompe pas de bouteille de jus. Non, ça veut dire fais attention. Fais attention.
Et qu'est-ce qu'il pourrait faire pour faire attention? Qu'est-ce qui empêcherait, par exemple, si elle a pu.
Bah, c'est ça, c'est qu'en réalité, tu peux rien faire pour faire attention, parce que rien, même en faisant rien, tu te fais contrôler, tu te fais malmener, violenter.
Bah oui.
Parfois même violer avec l'affaire Théo, et même quand t'as pas de raison de faire attention. Donc oui, qu'est-ce que ça veut dire faire attention? On sait même pas réellement, ça veut juste dire
Te fais pas trop remarquer,
quoi. Va à Franprix et achète la brique de jus, cours vite, rentre à la maison.
On en revient à la même chose que nos parents,
pas remarquer quelque part, quelque part, ouais, c'est vrai, quelque part, et ça c'est clairement, faut que ça change.
Et du coup, maintenant que tu es papa, comment tu es vis-à-vis de tes fils, hein, et comment ça se passe avec tes fils?
Bah, avec mes fils, je suis un papa poule. Pour la construction, pour sa confiance en soi, l'acceptation qu'on a de la qualité de nos émotions. Ce qui est important pour moi dans mon rapport avec mes enfants, c'est qu'ils puissent se dire, mon père, je peux lui parler de tout, tout le temps. Et ça a de la valeur.
Il n'y a pas de sujet tabou.
C'est pas tout qu'il n'y ait pas de sujet tabou. Tu peux me parler, je te prends en considération.
Tu veux un réel échange.
Ouais, exactement.
Et du coup, par rapport à ce qui s'est passé avec ton fils, parce qu'il a eu un incident aussi, il n'y a pas si longtemps que ça.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous en parler?
Donc, il y a 3 ans, donc il avait 10 ans.
Il était en quelle classe?
Il était en CM2. Il y a un événement qui se passe avec son maître d'école qui lui dit qu'il soit en classe avec un de ses copains, à certainement faire du bavardage ou se chamailler avec son camarade, enfin comme il peut se passer dans une classe de CM2. Son prof lui dit « Calmez-vous, c'est pas l'école de vos ancêtres, c'est l'école de mes ancêtres. »
Alors, son enseignant principal en CM2 lui dit « C'est pas l'école de vos ancêtres, à ton fils. »
Ouais, à mon fils et à son camarade qui sont deux garçons racisés.
D'accord.
Noirs.
Qu'est-ce que ça a à voir les ancêtres là-dedans quand tu
donc,
fais du bruit?
Mais j'ai jamais compris en fait le rapport.
Il voulait
préciser
que c'était les Gaulois, non?
C'est une façon parabole de dire retournez chez vous, t'es pas chez toi, calme-toi.
T'es pas à ta place.
T'es pas à ta place, ouais voilà. Si vous respectez pas, bah retournez chez vous quoi. Cette première réflexion et après ça, il lui dit oui c'est bien petit esclave.
Il lui dit petit esclave.
Ouais, c'est bien petit esclave parce que ils étaient en train de faire un exercice en binôme donc. Donc mon fils était avec ce camarade là et quand le prof leur dit de ranger les affaires, d'après le prof, le camarade laissait tout faire mon fils.
Ouais, et du coup, il s'est dit qu'il fallait qu'il l'appelle petit esclave.
Le prof me dit mais j'ai dit ça pour le défendre.
Ah bah oui, c'est sûr. C'est vrai que juste avant tu lui dis en fait que c'est pas l'école de ses ancêtres.
J'ai dit pour le défendre. Et pour dire à l'autre que bah non c'est pas lui de faire tout seul donc il dit à mon fils c'est bien petit esclave et quand donc du coup j'ai été voir le prof je dis mais vous vous rendez compte que ce que vous dites
parce que ton fils t'en a parlé il est venu te voir en disant
Il en a parlé d'abord à sa mère et de ça je suis parti voir le prof.
Mais ça t'a fait quoi toi en fait quand ton fils t'a dit ça? Ton sang il a fait qu'un tour
Il a fait qu'un tour, je crois qu'il me sortait par les yeux tellement j'étais énervé.
Et ça t'a fait penser justement à des choses par rapport à toi? Tu t'es dit mince.
Ça m'a fait penser en fait à cette ascendance que beaucoup d'adultes blancs prennent sur les enfants noirs en fait, les enfants racisés de manière générale. Ce truc où ils font valoir leur pleine puissance, ils s'en prennent beaucoup à nos enfants, de manière très consciente. Et je l'ai vu avec ce prof. En fait, toute l'enfance de l'enfant, ils lui enlèvent. Dans leur façon de communiquer avec eux, de considérer ce que les enfants font. Encore une fois, on parle d'enfants, quoi. Je veux dire, un gamin.
Il y a 10 ans.
Qui a 10 ans, qui bavarde avec son copain. Tu vois, moi, j'ai donné des cours aussi à des enfants. Et les enfants,
le temps,
ils bavardent. Ils sont.
C'est ça. Ils ont un temps de façon. Ils ne peuvent pas être à 100% mais comme nous-mêmes. Hein.
Exactement. Et c'est clair que ce n'est pas toujours facile. À aucun moment, tu te dis, bon, faut que je vais faire du mal à ce gamin pour le calmer un peu. Professeur-là qui attaque les enfants comme ça, ils sont très cons. Ou alors, ils sont juste très conscients que ça fait juste du mal, mais ça ne les calme pas. Jusque-là, c'était, bon, de toute façon, il va certainement pas le rapporter à ses parents. Et puis s'il le rapporte à ses parents sont même pas alignés, 10 mots en français. C'est un peu ce fantasme-là aussi qui se font des parents, qui est souvent faux d'ailleurs. Et quelque part, en attaquant les enfants comme ça, c'est une façon de manquer de respect aux parents, tu vois.
Et du coup, avec ton fils, quand il te l'a dit?
Et donc, comme mon fils, il me le dit, au départ, j'en parle autour de moi. Ça me prend 2 jours, j'en parle autour de moi. Et là, je me rends compte, en fait, de la réalité. Je me rends compte qu'en réalité, il y a beaucoup plus de racistes que ça. Il y a les racistes conscients, il y a ceux qui sont inconscients. Donc là, tu t'embarques dans une démarche où tu es seul.
Ouais, là, c'est compliqué.
Là, c'est très compliqué. Parce que les gens sur qui tu comptais et qui, naturellement, auraient dû être de ton côté, bah, ne le sont pas.
Oui. Et ça fait encore plus mal, en fait.
C'est une trahison. C'est violent. C'est violent. C'est très violent. Et ça, c'est quelque chose que tu peux pas faire entendre parce que t'en as qui sont juste certains d'être bienveillants avec tout le monde, qui ont un grand cœur pour tout le monde. Moi, j'aime tout le monde.
C'est ça.
J'aime tout le monde, noir, blanc, machin.
Je vois pas la couleur.
Je vois pas les couleurs. Ce truc de oui, mais Dany, franchement, t'exagères un peu. Non, mais...
C'est toi le problème à la fin, en fait.
Oui, mais c'est toi le problème. C'est oui, mais t'es trop radical, t'es trop extrême. Tu vas te confronter parce que tu te rends compte qu'il faut que tu ailles confronter le prof à la violence de ses propos. Et puis parce que tu vois aussi que ton gamin, quelque part, il est touché. Du coup, il sait pas de quel côté se mettre parce qu'il voit que ça crée des scissions entre les gens qui sont censés être avec lui. Donc, il a d'une part envie que ça disparaisse.
Envie il peut culpabiliser aussi, de dire c'est moi qui ai
causé
le problème.
Voilà, exactement. Dès ce moment-là, tu dis, ah non, non, mon fils, faut que tu saches une chose, je serai toujours avec toi. Ce que ce prof a fait, c'est répréhensible. La raison, elle est pour toi. Et c'est toi qui as été victime de quelque chose. Et tu vois, c'est aussi ce truc-là de... Le mot victime, on l'a tellement... Quand c'est les noirs qui l'utilisent...
C'est victimisé. C'est plus victime.
Voilà, le noir, quand il ne peut pas utiliser le propos victime, sinon c'est... Oh, mais... Ben, le prof, il me sortait ça à un moment. Il me dit, oh, mais on peut plus rien dire. Mais il m'a dit exactement ce truc.
Mais... Tu vois, moi, je me pose la question quand même. Le truc, c'est pas qu'on soit victime, en fait. Qu'on soit victime, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est intégré dans toute la société. D'ailleurs, on nous voit des trucs de la Croix-Rouge, de l'UNICEF, du président Macron qui va aller sauver l'Afrique, enfin, des gens avec des sacs de riz sur le dos. En fait, ouais, on est toujours victime, mais c'est pas ça. C'est que quand on désigne un coupable, le problème, il est là, j'ai l'impression. Que si nous, on se permet de nous-mêmes de désigner
un coupable,
là, c'est ferme ta bouche et rentre chez toi.
Ah bah oui,
parce que
attends,
nous, on va le désigner à ta place, en fait. Attends, nous, on va dire puis, que t'es victime et puis on sait comment faire.
Ah bah oui, grave.
J'ai l'impression que c'est plutôt ça, le problème, clairement, de désigner notre oppresseur par nous-mêmes.
Bah oui, si l'oppresseur, il est blanc, ah bah oui, forcément. Ah bah tu fais de la victimisation, oh mais ça va. C'est un contexte qui se vérifie dans plein de cas de figure de rapport. Je veux dire que ça soit avec un professeur, que ça soit même dans des relations intimes. Dès lors où tu vas faire entendre à quelqu'un que bon, j'aime pas ta façon de faire, ça m'oppresse. Ouais. Oh,
tu
ça c'est la victimisation, machin. Faut que tu acceptes. Donc le prof de mon gamin qui vient et qui me dit... Non, mais écoutez, monsieur, si on ne peut plus rien dire, j'ai fait beaucoup de choses pour beaucoup de petits Africains qui me disent. N'allez pas me faire regretter d'avoir fait tout ça pour eux.
Oh, non, mais ben qu'est-ce que ça a à voir? Non, mais le mec,
je dis,
mais
écoute,
il part
merci,
en bruit,
mon pépère, mais du coup, moi, je fais entendre. Enfin, moi, j'en demeure pas. Et je lui dis à un moment, monsieur, écoutez, arrêtez d'insulter mon intelligence. Il essaie de faire. Attends, j'ai l'impression qu'il parle de Pablo Escobar à un moment donné, tu vois, genre c'est...
Il a non, 10 ans, quoi.
Non, mais oui, mais aussi votre fils, hein. Je dis, écoutez, en fait, mon fils, même si vraiment bavardé comme jamais, tu sais, genre, qu'est-ce qu'il a bien pu faire en classe de je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire en classe de tellement si grave. Enfin, je sais pas, mais...
Ouais, t'as pas à dire...
Je suis pas d'accord avec ce que vous lui avez dit. Donc, il y a un peu ce truc-là de... Essayer de me faire entendre que mon fils est quelque part turbulent pour pouvoir justifier. Enfin, en tout cas, lui, il a pas un instant reconnu à quel endroit c'était déviant de dire une chose pareille, tu vois, de parler d'esclaves, de parler d'ancêtres à des petits enfants noirs. Et essayer de me faire croire à moi. À un moment, il me dit, mais non, mais moi, quand je leur parle de leurs ancêtres, pour moi, ce sont des Français. On a les mêmes ancêtres.
Mais
j'avais pas vu que c'était des petits noirs. Ah bah oui, tu vois. En même temps, il te dit ça et 5 minutes avant, il me disait, non, mais n'allez pas me faire regretter d'avoir fait des trucs pour les petits Africains.
Et en fait, après, ton fils, il l'a pris comment?
Mon fils, j'ai vu qu'à ce moment-là, on en a parlé souvent. Je sais qu'il en parlait avec personne d'autre. Il avait compris que maintenant, quand il y a une tornade qui arrive... Et ben avant que la tornade le touche, j'étais là pour faire barrage, quoi. Mais j'ai des amis, dont une qui m'a aidé à rédiger un courrier que j'avais envoyé à l'académie.
Oui. Ah, t'as fait un courrier à l'académie ?
Ah ouais, ouais, j'ai fait un courrier à l'académie, j'ai fait un courrier aux parents profs, parents d'élèves, voilà. Et donc, ouais, j'ai fait des courriers.
Bah justement, en tant que parent, on est parfois démunis et on sait pas où se tourner. Ouais. Et que si on écrivait plus, ouais, si on écrivait justement ce qui se passait, ouais, si on rapportait ce genre de choses, il y aurait une traçabilité.
Clairement, ouais.
Ton amie qui a fait la lettre, elle était juriste.
Elle est juriste, ouais. De ces courriers-là, il y a deux mamans, dont une en particulier, qui était venue me voir pour me remercier d'avoir fait ça, parce qu'elle avait encore un gamin aussi. Elle avait vu le truc via parents d'élèves, là.
Oui.
J'avais fait un mail dont tous les parents d'élèves qui avaient laissé leur mail recevaient.
D'accord, donc ils ont tous été informés.
Voilà. Et il y a une maman qui vient me voir, et donc elle me disait que bon, elle avait déjà eu un grand qui avait été à l'école, et que elle s'était toujours sentie impuissante face à ses profs qui pouvaient dire des choses qui étaient de l'ordre du racisme, sans jamais se retrouver face à des parents qui les remettent à leur place, quoi. Parce que ses parents, bah, comme on disait tout à l'heure, soit ils avaient pas le temps, soit ils étaient même pas au courant, peu importe. Enfin, l'idée là, c'est que faut plus que ce soit possible. Faut que les profs se disent, vaut mieux pas que j'aille trop loin, parce qu'ils ont des parents, les gamins, qui nous tombent dessus. Tu vois?
Et tu penses qu'il y a une différence, du coup, entre le traitement des garçons et des filles à l'école?
Ouais.
Ouais, ouais, par rapport à quoi ?
Il y a un rapport à la culpabilité évidente.
Culpabilité de quoi ?
D'être potentiellement un méchant,
ouais,
un turbulent, hein, ce que tu veux. Hein, tu vois, c'est quand le prof il vient, il essaie de se justifier, et ça c'est monnaie courante, il essaie de se justifier par...
ouais, tes préjugés.
Tu vois, tu me parles de oui, de quoi, d'un gamin qui bavarde tout le temps.
Il y a un sous-entendu de violence,
oui,
derrière.
Oui, un sous-entendu,
quoi,
de violence. Donc il y a un peu ce truc-là, histoire de justifier leur débordement. Le petit garçon, on va le rabaisser en lui faisant croire qu'il n'est que brutalité, violence, incohérence. Tu vois, c'est des trucs qui reviennent souvent. On essaie de te faire passer pour quelqu'un qui n'est jamais cohérent, ce que tu exprimes n'est jamais clair ou pas assez correct, donc t'as vite fait ou alors de te buter contre ces idées, contre ces gens qui t'apportent ces idées là ou alors t'as vite fait de te renfermer avec des gens qui te ressemblent, qui sont comme toi et qui comprennent simplement. Tu vois, j'ai travaillé aussi avec des enfants. Oui, les enfants, c'est pas toujours simple,
mais
ça reste des enfants, c'est-à-dire que même dans leur vacarme, et je te parle même de l'enfant le plus relou, hein, celui qui teste plus tes limites, bah même lui, ça reste un enfant. À aucun moment tu te dis que
le rabaisser
sur ses rapports à ses origines ou rapport à non. Donc la stigmatisation appelle à la ghettoisation, tu vois.
Et en même temps, ghettoisation, on reproche pas à des blancs d'être ghettoisés.
Mais clairement, leur ghettoisation, elle est différente parce que pris un peu en référence. Le plus dur, c'est de se confronter en plus de ça à leur mauvaise foi, quoi. C'est le propre du racisme inconscient, tu vois. T'es persuadé que parce que tu donnes cours à des enfants noirs, que t'es pas raciste. T'es persuadé que parce que tu sors avec un noir ou une noire, que t'es pas raciste. T'es persuadé que parce que t'as des enfants métis, que t'es pas raciste. On parle d'un racisme systémique.
Et si tu aurais une solution aujourd'hui à apporter dans le domaine de l'école, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire ?
Ah bah clairement, déjà, intégrer beaucoup plus de professeurs
d'enseignants
racisés. Oui, clairement. Rien que ça changerait la donne.
Oui.
Rien que ça.
Et puis pas qu'un seul tout seul.
Et pas qu'un seul tout seul dans un...
Le pauvre, c'est celui qui se fait attaquer après.
Exactement.
Bah écoute, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nous, avec
merci
moi.
À toi.
Et j'espère que ça a été.
Non, c'est très bien, c'est important de pouvoir en parler.
Bah écoute, je te remercie. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre les 5 petites étoiles, sur iTunes ou Apple Podcast. Et puis, on vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.
Astronaute. Moi, quand je serai grande, je serai actrice.